Salut Sam, salut Quentin, merci de nous rejoindre ici à Lisbonne, cette fois-ci, deux semaines après LISCON, cette fois-ci pour Breakpoint, un événement Solana. Vous faites tous les deux partie de Solanart, justement. On va parler ensemble de NFT. Vous êtes une galerie de NFT, l'une des premières galeries de NFT en termes de volume sur Solana, justement. Merci de nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu en quelques mots pour les gens qui ne vous connaissent pas, votre parcours, et puis quelques mots sur la plateforme Solanart, s'il vous plaît, les gars.
Oui, bah, salut Val, très content d'être là à Lisbonne, c'est vraiment génial. Du coup, moi, c'est Sam, je suis un des cofondateurs de Solanart. J'ai commencé les cryptos en 2017. Pour la première fois, j'avais acheté un peu d'ETH, un peu de BTC, tu vois, pour juste tester le truc, mais sans vraiment rentrer à fond dedans. Puis après, j'ai perdu un peu l'intérêt et j'y suis revenu en décembre 2020. Et du coup, depuis, je fais ça un peu... quasiment à temps plein. Et voilà, et du coup là on a lancé la plateforme Solanart en juillet, début juillet, donc ça fait plus qu'à moi. Et voilà, c'était à peu près tout.
Salut Valentin, et ben moi c'est Quentin ou IT sur Discord. Moi pareil, j'ai commencé les cryptos en 2015 à peu près, je suis entré dedans, on va dire, de manière un peu plus sérieuse. Et pareil, c'est venu par vague. Selon les bullruns et que j'ai gagné de l'intérêt ou perdu. Et c'est seulement cette année là où j'ai décidé de m'investir un peu plus dedans. Et on a rejoint du coup la blockchain Solana qui était bien plus performante que toutes les autres. Quoi, en fait, concrètement, rien qu'en termes de tech, c'était mille fois mieux. Et voilà, donc on a choisi cette blockchain et puis c'est ici qu'on a lancé Solanart. Voilà.
Et histoire que les gens analysent un peu vos voix et posent ce que vous faites chacun l'un et l'autre. Quentin, toi, tu as le micro actuellement, c'est toi qui dev du coup le Solanart, hein, c'est ça hein.
Ouais, c'est ça, moi je suis lead dev là-bas et en fait c'est moi qui gère toute la partie développement et en gros tout le back, là, ouais, on va dire les coulisses un petit peu du site quoi. Ouais.
Ok, carrément, et on va en discuter effectivement parce que c'est passionnant. Et toi Sam, du coup, tu t'occupes de quoi chez Solanart?
Du coup, en fait, on est quatre cofondateurs, donc il y a Quentin qui s'occupe du back, moi je m'occupe plutôt de tout ce qui est partenariat, collaboration, d'accord, tout ça. Et du coup, on a deux autres membres qui s'occupent plutôt du front et de tout ce qui est community et social media.
Comment vous avez vécu un petit peu du coup cet été quand tous les NFT ont un peu explosé? Parce que vous m'avez dit, voilà, on vous êtes lancé en juillet, donc en fait en plein dedans sur une blockchain Solana qui en juillet n'était pas tellement ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est vrai que là, l'événement Breakpoint, on l'a fait vivre à travers les articles, les podcasts, un thread sur Twitter. Si les gens veulent retrouver ça, on le met en description, c'est très actif. C'est super intéressant de voir un autre écosystème au même endroit à quelques semaines près qu'Ethereum, ce fameux Ethereum killer qu'est Solana, ou en tout cas qu'on prête à Solana. Justement, dans quelle atmosphère en juillet vous vous êtes lancé sur Solanart et un peu les coulisses à ce moment-là, comment on fait pour lancer une plateforme de NFT, une galerie d'NFT sur Solana?
Bah en fait, c'est parti d'un premier projet NFT qu'on avait fait qui s'appelait les Solpunks, c'était le troisième, je crois, projet NFT sur Solana. Bon, en premier, il y avait les Creatures et les Solarians, et après nous. Et c'était, ouais, à l'époque, il n'y avait même pas de metadata ou de... Les NFT, c'était juste un token, quoi, en fait, il n'y avait rien d'autre.
Okay.
Tout était à faire, concrètement. Et du coup, bon, on avait testé avec ça, voir ce que ça donnait. Et ça a plutôt bien marché. On avait tout vendu. Et en fait, après, la communauté l'avait vachement demandé à ce qu'on fasse une marketplace.
D'accord.
Et du coup, on s'est dit que... je me suis dit que j'allais essayer de regarder si c'était possible. Parce qu'il n'y en avait pas à l'époque sur Solana. On était la première collection, d'ailleurs, qui vendait tout, justement. Donc, il n'y avait pas vraiment de précédent, quoi. L'exemple, c'était Ethereum et d'autres personnes qui avaient des NFT et qui cherchaient à les vendre. Et du coup, j'ai commencé à bosser sur ça, là... Je dirais fin mai. Et on a bossé dessus à peu près un mois et demi avec un autre cofondateur. Et on a sorti la plateforme début juillet.
Et à ce moment-là, à peu près au même moment, quoique ça a explosé un peu plus tard, après tout ce qui est OpenSea et tout sur Ethereum, quand tu fais ça, il y a peu de choses déjà existantes dans ce domaine-là. Solanart est l'une des premières. Comment on s'inspire du néant, en fait? Comment on se décide? Alors, parce qu'en termes de langage de programmation, en termes d'architecture, comment tu fais? Tu te poses sur ton canapé et tu réfléchis comment ça fonctionne?
Ouais, exactement, ouais, typiquement, c'était ça. Je mangeais dans mon lit des fois des 2-3 heures à réfléchir comme un malade pour savoir comment j'allais m'y prendre pour faire des... Ouais, juste l'architecture, quoi, en fait, comment faire? Parce qu'on a tout construit de zéro, quoi. Vraiment, on n'a pas pris de template ou quoi que ce soit. Et je pense que ça se voyait parce que le site avait vraiment un aspect assez artisanal quoi, au début. Et ouais, vu qu'avec les Soulpunks d'ailleurs comme NFT qui était tradable en gros à l'époque, bah voilà, il y avait juste cette collection dessus. Et donc on a plus ou moins construit autour de ça et tout le site était designé, enfin pas designé mais était prêt pour seulement fonctionner avec cette collection quoi. En fait, j'avais prévu un peu le coup au cas où il y en ait d'autres. Mais surtout, la plus grosse surprise, c'est qu'on ne pensait pas qu'il y aurait un attrait si gros pour les NFT et si rapidement, en fait.
D'accord. Et à ce moment-là, donc, quelques collections. Aujourd'hui, beaucoup plus. On discutera un petit peu des intégrations que vous avez pu faire ensemble avec Sam dans quelques minutes. Et là, la plateforme, elle est en ligne depuis juillet. Est-ce que vous avez une idée des volumes qui ont été traités sur Solanart?
Ouais, alors là, on est à un peu plus de 4,2 millions de sol de volume échangé sur la plateforme depuis qu'on a lancé en début juillet, donc en 4 mois.
Énorme.
Donc ouais, ça fait, on est un petit peu, genre pas très loin du milliard de dollars de volume traité. On l'a peut-être même dépassé. Et ouais, du coup, comme Quentin disait au début, il y avait, enfin, on était à quoi, genre une, deux, trois ventes par jour. Là, on est à plusieurs milliers, voire certains jours des dizaines de milliers. Et ouais, enfin, on s'attendait vraiment pas à un truc comme ça. Ça a vraiment explosé très très vite. On voyait, tu vois, le potentiel. C'est pour ça qu'on s'était mis dessus. Mais on n'avait pas anticipé à quel point ça allait aller vite et fort. Et il y a eu en fait un drop qui a tout changé. C'est les Degenerate Ape Academy, où genre, t'as eu un après et un avant, quoi. Un avant et un après plutôt. Et à ce moment-là, genre, ça a donné tellement de visibilité à Solana que avant t'étais à peut-être genre 1, 2, 3 projets par jour, semaine. Maintenant t'en as genre une cinquantaine, une centaine par jour quoi. Enfin, ça a vraiment été le game changer pour Solana. Et les gens ont découvert que tu pouvais faire des NFT sur Solana et que ça marchait aussi bien que sur Ethereum, mais pour beaucoup moins cher quoi.
Avec tout ce qui est Candy Machine et tout ce genre de choses dont on va là aussi discuter. Avant ça, je voulais juste avoir votre définition, votre vision des NFT, parce qu'elle est propre à chacun. Et voilà, avoir les deux cofondateurs de Solanart, j'en profite. Votre définition des NFT et l'usage qu'on peut en faire, ça serait quoi d'après vous?
Ben, en fait, je crois même pas avoir de vision en particulier, parce qu'elle change super souvent. En fait, y a tellement de concepts possibles, aussi bien dans le gaming que la tokenisation dans l'immobilier. Y a... En fait, on peut créer des NFT pour absolument tout, quoi, en fait, comme titre de propriété ou comme absolument ouais, n'importe quoi, quoi. En fait, les limites, elles sont vraiment propres à chacun. Quoi. Quelque part, c'est chacun en fait ce qu'il veut. Quoi. On donne une sorte de base qui est le NFT en lui-même et ses fondamentaux. Et derrière, après, les gens, justement, c'est ça qui est aussi cool sur les NFT, c'est qu'il y a encore tout à faire dessus. Quoi. Donc là, ça se revend. Enfin, c'est tout de l'achat-revente pour l'instant. Et... mais quelque part, je pense qu'après, ils vont vraiment se diriger vers une vraie utilité. Quoi. Ils seront au-delà de l'art qu'ils représentent. Il y aura quelque chose derrière qui... Enfin, il y a encore plein de choses à faire quoi, dessus. Il n'y a pas vraiment de limite, quoi, concrètement, je pense.
Parce que vous, là, aujourd'hui, de fait, vous êtes focus sur tout ce qui est l'art. Vous vendez des objets d'art, en fait, des NFT d'art, pour le coup, sur Solana. Ouais. Pas tellement d'autres choses.
En fait, on a un peu de... En fait, ça a commencé, si tu veux, avec tout ce qui est profile pic, tu vois, d'animaux, machin, ça, les trucs les plus simples, quoi. Et on voit un shift, enfin, les gens commencent à se tourner vers des projets qui sont un peu plus, qui donnent plus de utility. Par exemple, ben, un de nos projets préférés, c'est Aurori, qui est un projet français,
ouais.
Qui est un projet du coup de gaming, qui sont en train de faire un jeu sur Solana. Et du coup, ça, c'est ce qui devient de plus en plus populaire. Et moi, du coup, c'est ma vision. En fait, pour moi, les NFT, c'est un peu, comment dire, le portail entre la vie réelle et la blockchain, quoi. Genre, tu vas pouvoir digitaliser ou tokeniser des biens de la vie réelle. Comme Quentin disait, peut-être un acte de propriété. Tu vas pouvoir jouer avec des NFT. Il y a plein de possibilités, les NFT. Si tu veux, de mon point de vue, que la blockchain devienne mainstream, ça passera par les NFT. Tu vois? Et donc, voilà, c'est un peu ma vision des NFT. C'est genre le gateway, le portail entre... Le grand public et la blockchain.
Ouais, ça, effectivement, ça permet d'aborder d'une nouvelle manière, au-delà de la spéculation des crypto-actifs, avec un autre usage. Tu parlais d'Aurori, qui est très intéressant. Aurori, français, Solanart, français. Dans la DeFi, on a reçu Mark Zeller, il est français. De Havre, on a reçu Julien Bouteloup de Curve et de Stake et de plein d'autres trucs qui est français. Les français sont partout. Là, dans LX Factory, là où la conférence Solana a lieu, j'ai l'impression que ça parle plus français qu'anglais ou que portugais. Est-ce que c'est la même sensation que vous avez, vous aussi, dans le milieu des NFT, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français ?
Il y a énormément de Français, en particulier sur Solana. Tu les as pas cités, mais Solana Monkey Business, c'est aussi des Français. Cropper, c'est des Français. Enfin, il y a plein de projets qui sont français. Unirex City, c'est des Français. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de Français sur Solana. Ça fait vraiment plaisir parce que du coup, pour une fois, on est en force, quoi. Et on est en train de créer quelque chose de vraiment beau et de vraiment cool, et ça fait vraiment plaisir, quoi.
Ouais, t'as raison. Sur Solana, sur Ethereum, et tout à l'heure, on citait des gens effectivement d'Ethereum, de la DeFi, mais dans tous les secteurs et aussi dans les NFT, ouais.
Oui, tout à fait, ouais. Ouais, non, c'est ça. Comme disait Sam, il y a énormément de Français dessus, quoi, ouais. Si.
Et justement, vous parliez là aussi d'Unirex. Alors, on a suivi, ouais. On avait été dans les studios d'Unirex City à Paris il y a quelques semaines avec une partie de l'équipe, voir un petit peu, pour le coup, les coulisses de la création d'un NFT. Là, on a les coulisses d'une galerie. Et tout à l'heure, il y a quelques semaines, c'était la création d'un NFT parce que c'est encore une fois très abstrait. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pareil, des devs, c'est pareil, des graphistes qui créent des choses. Et ensuite, c'est la blockchain qui fait tout le reste et qui lui donne toute sa saveur.
Exactement.
Unirex, c'est... un projet de dinosaure avec, en fait, c'est le produit d'appel, c'est un dinosaure, et puis après ils sont en train de construire plein de choses autour, des jeux, et justement le NFT est prétexte à faire beaucoup de choses. Sur voilà, Solana, ouais. Quand on crée des NFT, quand on crée une galerie, on parlait de la Candy Machine et tout, est-ce que vous pouvez décortiquer un petit peu comment ça fonctionne pour démystifier un peu la difficulté de cet exercice-là, qui n'est peut-être pas si compliqué en fait.
De créer un NFT sur Solana ?
Ouais.
Alors... Je vais essayer de l'expliquer comme je pourrais. Je ne suis pas en général très très bon en explication, mais techniquement, il y a déjà une partie qui va se faire sur la blockchain, qui va être de créer le token en lui-même. Donc en soi, c'est rien de plus qu'un... En tout cas, sur Solana, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est rien de plus qu'un token comme n'importe quel autre token, comme par exemple le SAMO, quoi. Sauf qu'on lui met 0 décimal et un supply de 1. Ça, c'est le premier point. Donc là, on a notre token qui est donc unique, donc un NFT. Et en fait, là-dessus, il y a un standard donc pour le NFT sur Solana qui s'appelle Metaplex standard, où en fait, c'est un consensus, on va dire, qui a été établi autour du fait que sur Solana, tu peux utiliser des comptes dérivés avec où tu dois leur donner donc des seeds pour créer ces comptes dérivés. Et cette seed, par exemple, ça va être l'adresse de mint du token. Donc là, sa token adresse, elle est prise comme seed pour créer un dérivé de ce compte avec le programme donc de Metaplex. Et sur ce compte qui est créé, c'est là-dessus qu'est stockée toute l'information qu'on lui donne. Donc le nom du NFT, l'image, le symbole et un lien qui est stocké aussi sur une autre blockchain qui s'appelle Airwave ou IPFS comme sur Ethereum. Et en fait, c'est dans ce lien-là que les informations du NFT sont rentrées. Donc l'image également et les attributs et voilà tout ça sous format JSON. Donc.
Voilà, ça coûte moins cher de l'utiliser, de le créer, de l'échanger que sur Ethereum pour le coup.
Oui, de toute façon, la comparaison est ouais, complètement. C'est beaucoup, beaucoup moins cher. Ouais.
Et si on sort justement un petit peu de la création pure et dure d'un token d'un point de vue informatique, après vous, en tant que galerie d'art de NFT, de galerie d'art virtuelle, entre guillemets, vous choisissez les projets. Sur quels critères, comment vous attribuez du crédit à cette collection et pas à une autre? Parce que la force, par exemple, des NFT, et elle est toujours le cas, c'est que n'importe quel artiste puisse créer quelque chose et effectivement l'exposer dans une galerie qui, lui, peut créer en tant que personne ou qui peut aller la mettre sur OpenSea sans aucun problème. Vous, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de collaboration entre les projets que vous décidez d'exposer dans cette galerie-là. Et quels sont, du coup, les prérequis pour venir chez Solanart?
Ouais, alors comme tu l'as dit, nous on n'est pas encore une plateforme ouverte comme tu pourrais dire d'OpenSea par exemple. Du coup, nous on travaille avec les créateurs qu'on décide de lister. Et la manière dont ça se fait, c'est qu'on regarde plusieurs critères, notamment s'il y a une communauté, une bonne communauté derrière. Bien sûr, parce que là aujourd'hui, tu vois tous les projets. Enfin, une grande partie des projets, tu vois, ils botent leur compte. Du coup, on essaye de voir à travers ça si c'est des vrais followers, si c'est une vraie communauté, tout ça. On aime aussi regarder si le projet apporte quelque chose de nouveau. Genre, s'il a créé quelque chose de nouveau. Par exemple, on a été un des grands fans de ce que Solstead a fait, qui a un projet de galerie virtuelle avec une maison en NFT. Enfin, c'était vraiment très cool.
Par exemple, là-dessus, qu'est-ce qui vous a plu chez Aurorik? Qu'est-ce qui vous a plu chez Unirex? Des projets qui sont plus connus.
Alors, en plus d'être français, ce qui nous a plu chez Aurorik, c'est que le projet, déjà l'art en lui-même. Du coup, ça c'est Yann, qui est l'un des cofondateurs de Aurorik, qui a dessiné tout ça à la main. Et déjà, l'art est super, l'ambiance est super, le fait qu'ils vont créer un jeu. Ils ont fait un IDO il n'y a pas très longtemps, ils ont levé énormément d'argent, ils ont des énormes objectifs de devenir un peu l'Axie Infinity, tu vois, de Solana. Et on a discuté pas mal avec Paul, du coup, l'un des deux cofondateurs, qui est super cool et avec qui on s'entend très bien. Et on a juste aimé leur approche et on a décidé de travailler ensemble, ça s'est fait super naturellement. Et du coup, voilà, Unirex pareil, on a découvert Unirex grâce à Cryptost. Donc c'était vraiment super cool, on a découvert
excellent,
le projet.
Excellent, ça je savais pas.
Ah ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. Et on les a contactés, ils étaient super heureux de nous parler. On a eu un call avec eux, on a vu ce qu'ils avaient prévu, genre leur truc de comique, les jeux, l'art est super beau. Je m'en suis acheté un mois d'ailleurs, je trouve ça génial. Et ils ont eu un launch un peu chaotique, mais en mettant ça de côté, le projet est vraiment super cool et on était vraiment super fans, quoi. Du coup, voilà, la communauté, à quel point le projet est créatif, innovant, tout ça, et sur s'il a une utilité ou pas. Après, on ne lise pas que des projets avec de l'utilité, mais si une utilité, c'est quand même un peu mieux. Un truc qui apporte quelque chose de nouveau, tu vois, genre que ce soit dans le gaming, dans le metaverse, là, apparemment tout le monde est en train de se diriger vers le metaverse. Ou alors même simplement des avatars qui sont cool, quoi, qui ont un art sympa, quoi, voilà.
Parce qu'aujourd'hui c'est un site web, Solanart, sur lequel effectivement on peut venir consulter en tant que simple curieux des collections. On peut aussi en tant qu'investisseur ou passionné acheter les œuvres d'art. C'est ça aujourd'hui. Est-ce que demain vous pouvez avoir dans un métaverse peut-être votre galerie où on peut physiquement venir acheter des choses si on va dans cette dynamique du métaverse que tout le monde souhaite s'approprier aujourd'hui?
Ouais, alors exactement, il y a une grosse hype autour du métaverse et oui, évidemment, c'est quelque chose à quoi on est en train de penser. Après, le métaverse, bien que tout le monde en parle, ça reste quand même quelque chose de très abstrait. C'est-à-dire qu'il y a rien de... Enfin, il y a déjà des projets évidemment, mais chaque entité, on va dire, qui s'y intéresse voudrait créer son propre métaverse. Et donc c'est vrai que voilà, ça restera à décider de comment on pourrait implémenter ça. Est-ce que nous on créerait notre propre truc aussi, on essaierait de rejoindre un autre? Est-ce qu'il y a un projet de métavers sur Solana par exemple qui va permettre d'intégrer ça d'une certaine façon? Tout est possible en fait concrètement, vu qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas encore de projet concret qui implémente vraiment quelque chose comme ça. Et du coup c'est ça qui pourrait. Ouais, tout est possible, quoi. Donc, on aimerait bien faire ça.
Vous êtes ouvert à l'idée de.
Ouais, on est ouvert à tout, en fait. On a vraiment pour but de changer un peu la façon d'acheter les NFT et d'axer notre site sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités et de choses nouvelles qu'on ne voit pas ailleurs sur d'autres plateformes, les plateformes sur Ethereum, type OpenSea.
Moi, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en plus, vous avez été lancé en juillet, donc ça veut dire que. Vous avez dû vous mettre très vite à jour parce que tout l'écosystème est en bullrun depuis un an, mais les NFT c'est particulièrement fort et monstrueux, donc c'est-à-dire qu'il a fallu se mettre rapidement à niveau pour assurer les volumes, assurer tout ça et peut-être mettre de côté pendant quelques semaines des ajouts de nouvelles fonctionnalités pour répondre à la demande. Qu'est-ce que vous prévoyez d'intégrer? Alors peut-être des grandes idées, peut-être des Alpha League si ça te tente, c'est comme tu préfères, c'est en fonction de ce que tu veux. Mais parce qu'effectivement, tout ce qui est. C'est paradoxal parce que la blockchain souhaite redonner de la valeur et puis enlever les intermédiaires. Et puis il y a Solanart et d'autres sur OpenSea et d'autres qui servent juste d'intermédiaires, entre guillemets. Alors vous avez un regard supplémentaire qui est votre regard d'artiste ou en tout cas de compagnie d'artistes pour dire ok, nous on soutient cette œuvre-là plutôt qu'une autre et il en faudra. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour aller au-delà de l'intermédiation entre l'artiste et le public?
En termes de, par exemple, de nouvelles ajouts de fonctionnalités.
Voilà, exactement. Ouais.
Et par exemple, en fait, un des principaux problèmes dans les NFT, celui que j'entends le plus souvent, c'est le manque de liquidité, quoi, en fait. Sur une collection qui vient de sortir, il y aura de la liquidité tout de suite. Et en revanche, dès qu'elle a, à moins que ce soit des trucs CryptoPunks ou des grosses collections très hypées qui auront toujours de la liquidité, on va dire, La plupart, elles finissent par en avoir très très peu. Et au final, une fois que tu en as acheté, tu es un peu coincé. Si tu veux vendre, tu es obligé d'aller le mettre sous le floor et attendre que quelqu'un. Et tu dépends encore de quelqu'un qui va te l'acheter, quoi.
D'accord, ouais.
Donc, nous, on aimerait tenter de résoudre ce problème-là. Et justement, on a une. Je suis en train de bosser sur une fonction en ce moment qui permettrait de tenter quelque chose vers ça et qui pourrait solutionner ce problème. Et voilà, ça devrait sortir normalement dans le mois, début décembre peut-être, au plus tard.
Avec l'objectif de rendre toutes les collections plus liquides.
Plus liquides, ouais.
Et donc, ouais, voilà. De redonner un petit peu, parce que la difficulté, c'est que tant qu'il n'y a pas d'acheteur sur ton objet à toi,
exactement,
il ne part, ouais, pas, contrairement à une crypto-monnaie où en fait c'est des carnets d'ordre.
Ouais, c'est ça, une crypto-monnaie, il y a un carnet d'ordre. Voilà, on peut vendre dès qu'on veut en market sell et voilà. Et alors que là, concrètement, si tu veux acheter, tu as voilà, t'as un clic à faire et tu achètes au floor. Par contre, si tu veux vendre, tu dépends de quelqu'un qui va vouloir te l'acheter. Ou alors, tu as déjà une enchère sur ton NFT, mais ça reste quand même assez rare. Et en plus de ça, il faut que l'enchère, elle te convienne.
Ouais, d'accord. Ok, je comprends. Et de la même manière, en termes de nouveaux projets que vous pourriez intégrer dans les prochaines semaines, combien vous en intégrez déjà par semaine, par mois, par jour? Et quel est le volume de demandes par rapport à celles que vous acceptez de lister sur Solanart?
Alors, ça dépend des périodes, mais il y a des périodes assez, on va dire, quand il y a des grosses hype NFT, type comme il y a à peu près 3 semaines, on reçoit, ouais, jusqu'à 50 demandes par jour, je pense, peut-être même plus ces derniers temps, ouais, plus. Et on compte plus vraiment, en fait, parce qu'on, ouais, reçoit partout sur Discord, Twitter, plus sur le formulaire qu'on a. Mais et sur ça, on en listait, je dirais, à peu près 1 ou 2, 3 par jour. On est monté jusqu'à 5 parfois, mais on est descendu assez vite. Et voilà, c'est autour de ça en gros que ça. Ouais.
Et autant effectivement, on a fini par comprendre comment ça fonctionnait d'avoir de la liquidité sur les plateformes de trading, parce que avec les market makers, on a déjà eu l'occasion de discuter avec Charlie Mero, qui est market maker pour les crypto-monnaies en général. Comment ça fonctionne, vous, pour avoir un peu de volume de ces ventes-là? On pense par exemple à Unirex, où quelques heures après, vous aviez listé sur Solanart, du coup, les Unirex et qui s'étaient très vite échangés. Comment vous arrivez à avoir suffisamment de volume pour dire, ok, c'est bon, il arrive sur Solanart, vous pouvez le trader et ça fonctionne?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question.
Comment tu fais pour avoir suffisamment de volume de NFT pour, ouais, la lister ensuite, de lister la collection sur Solanart?
En fait, c'est on liste tout le temps après, une fois qu'ils ont tout sold out, qu'ils ont tout vendu. Et en général, c'est justement, on essaye de lister que des projets où derrière, il y aurait une grosse demande, parce qu'il y a 50 000 personnes qui veulent en mint et qu'il n'y a que 10 000 NFT disponibles. Donc techniquement, il y a 40 000 personnes qui vont être à la recherche d'un NFT après et qui chercheront à en acheter. Et c'est comme ça qu'on essaye de calculer. Pour lister des collections, mais voilà, dès qu'on arrive un peu en fin de hype ou fin de vague aussi sur les NFT, on remarque que les collections, elles sold out plus, par exemple, et c'est des bons indicateurs en général, ça, pour dire que,
okay,
derrière, okay, voilà, ça marchera moins bien.
Et une dernière question pour vous deux là aussi, sur la suite des NFT. On a discuté un peu tout à l'heure, vous disiez des différents potentielles choses qui pourraient avoir sur les NFT et de ce que ça pourrait changer. Dans un monde où 2025-2030, Metaverse, Facebook ou pas, mais encore une fois, c'est ça qui drive un peu, parce que les gens assimilent souvent Metaverse à NFT et aux crypto-monnaies, alors qu'en fait, potentiellement, c'est totalement différent. Quelles sont les collections, d'après vous, qui pourraient rester sur le long terme, qu'on va encore avoir dans 10, 15, 20 ans? Et quels sont les usages qu'on connaît aujourd'hui, et non pas ceux qui vont arriver demain, comme on discutait tout à l'heure, mais qui existent aujourd'hui et qui vont prendre tout leur sens, justement, avec le temps?
Alors, par rapport aux collections, je pense que celles qui vont rester, c'est celles qui ont une communauté très forte. Du coup, en général, c'est les premiers, enfin, souvent les premières collections, par exemple, les Solana Monkey Business, je suis quasiment sûr et certain que d'ici 5 ans, ce sera encore là. Les gens commencent à considérer ça comme étant les crypto-punks, entre guillemets, de Solana. Les projets comme Degenerate, PP Academy ou les Geckos, voilà, enfin des projets qui ont une communauté très forte, ou les Thugbirds. Du coup, ça, il y a très peu de chances que ça disparaisse. Et en ce qui concerne ce que tu disais, les usages qu'on a aujourd'hui, je pense que personnellement, que ce qui va vraiment exploser, c'est le gaming. On commence déjà à le voir, ça commence déjà, tu peux, avec Axie Infinity et tout ça. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est ce qui est le plus proche, c'est quand même beaucoup plus proche que le metaverse. Et je pense que, surtout sur une blockchain comme Solana, où tu vois, t'as frais de transaction qui sont très faibles, t'as les transactions qui vont très vite. C'est quasiment custom made pour le gaming, tu vois. Et du coup, ça, je pense que ça va se développer, et que peut-être que le prochain Fortnite ou le prochain, pas d'autres jeux en tête, mais genre le prochain Fortnite sera sur la blockchain, quoi. Et j'y crois vraiment.
Et ça pourrait aussi permettre de déplacer ce qu'on a pu acheter sur Fortnite sur un autre jeu avec des solutions comme Ultra ou autre. Et
exactement.
De ne pas bloquer la liquidité sur le jeu et le perdre. Et pareil, avoir une nouvelle source de revenus pour les studios de développement.
Exactement.
Et c'est marrant parce que j'en profite pour échanger à ce sujet. Je sais pas si tu as vu, il y a quelques jours, quelques semaines à New York, il y a eu c'était sur entrée uniquement NFT. Fallait acheter un NFT, c'était peut-être les Bored qu'il fallait avoir, les fameux singes dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que avec Twitter qui prévoit d'annoncer une fonctionnalité où on va vérifier les NFT sur le site, on n'est pas en train de créer les nouveaux riches, justement, enfin les nouveaux riches sont pas en train de se bâtir aujourd'hui en NFT avec ceux qui possèdent des collections très particulières et d'avoir une, tout comme on est en train de bâtir un monde de cryptocurrency forte, avoir un monde de NFT où la valeur est en train de se bâtir aujourd'hui et ceux qui ont des collections très vieilles pourraient avoir accès à des choses de dingue plus rapidement que d'autres.
Bah clairement, on voit déjà ça. Par exemple, pour les CryptoPunks, ils ont eu accès à des chaussures custom-made d'une grande marque ultra, select. Donc clairement, aujourd'hui, des nouveaux riches sont clairement en train d'être faits. Mais c'est comme pour partout, en fait. Quand tu es early, et tu t'intéresses à ce qui est en train de se faire, bah c'est là où tu as le plus de bénéfices quoi pour le futur. Et qui sait, peut-être que je sais pas, aujourd'hui si t'as un Picasso, ça te donne accès à, tu vois, tout un monde exclusif. Peut-être que demain, si t'as le plus rare des SMB, tu seras dans le même bateau quoi. Et enfin, c'est assez dingue. Non, bah tu dis par exemple les tickets qui sont faits en NFT, c'est aussi un truc qu'on commence à voir. Enfin, qu'on imagine des tickets de concert en NFT, parce que du coup, tu vois, vu que c'est sur la blockchain, c'est pas falsifiable.
En termes de nouveaux cas d'usage, tu veux dire.
Voilà, c'est ça, ouais. Donc, rien que le fait, même Discord qui va intégrer des. Ils ont annoncé récemment qu'ils vont intégrer les wallets MetaMask, je crois.
Ouais.
Donc, tu sens vraiment que.
Il y a un bon géant.
NFT, ouais, que ça. Il y a une vague qui arrive et que là, on est genre. À la pré-vague, mais qu'une fois que ça va devenir mainstream, ça va être ouf quoi.
C'est vrai que ce bullrun a permis aux cryptos d'exploser plus de 3000 milliards il y a quelques jours, mais aussi en termes de cas d'usage. Est-ce que Quentin, tu partages aussi la même vision que Sam sur les collections qui vont durer, sur les cas d'usage qui vont perdurer également?
Ouais, je pense aussi ouais, que ce sont toutes les collections qui sont justement du type CryptoPunk qui sont dans les premières. Il y a notamment Etheria sur Ethereum aussi. Il y a même sur Bitcoin aussi, il y a des sortes de NFT qui ont été faits en 2015, il me semble, les PP Cards.
Ouais.
Ça, je m'étais vachement intéressé à ça en mars, quand c'était encore pas très connu non plus. Et pour moi, c'est tout ce qui est dans les premières, en tout cas, elles ont toujours ce côté historique, quoi, qu'elles soient belles, pas belles, qu'on les aime ou pas. Il y aura toujours un intérêt pour ces collections-là. Et donc, à moins qu'une collection qui sorte maintenant ait un usage ou une utilité, je pense que pour moi, il faudrait ouais, dans les premières collections pour qu'elles perdurent. Ou alors qu'il y ait vraiment quelque chose de nouveau, quoi, et plus seulement de l'art, ou alors de l'art particulier, quoi, qui est une forme de marketing différent. Mais pour moi, il y a beaucoup d'usages. Un autre usage aussi serait pour l'immobilier, ouais, pour par exemple adosser des immeubles typiquement sur un token et pouvoir stocker son prix de revente avec la blockchain. Et derrière, ça simplifierait énormément de choses, par exemple pour des emprunts derrière ou des choses comme ça, où on aurait direct un historique des prix, de combien ça a valu, combien ça pourrait valoir. Et ça pourrait faciliter énormément de choses. Et pareil pour, je sais pas, des sacs à main, le luxe, il y a...
Ouais, c'est cette fameuse interopérabilité sur laquelle travaille AAV, qui vient d'ailleurs d'annoncer son arrivée sur Solana.
Exactement.
Où on pourrait peut-être avoir en backup certains actifs immobiliers ou de la vraie vie pour pouvoir emprunter. Et je vais vous laisser juste après cette question. Mais par exemple, j'ai pas de NFT, ou les gens qui nous écoutent n'ont pas de NFT. Est-ce que c'est trop tard pour démarrer? Et si c'est pas trop tard, parce que je pense que c'est pas trop tard si on est early.
Non.
Par quoi je devrais démarrer si j'ai pas des centaines de milliers d'euros pour m'acheter un CryptoPunk par exemple?
Eh ben, de mint des NFT gratuits. Il y a pas mal de drops qui se font où les NFT sont gratuits et où les créateurs de ces NFT se payent avec les royalties sur les NFT. Donc les royalties, typiquement, c'est sur chaque transaction où ils vont recevoir un pourcentage de la vente. Donc en général c'est entre 5 et 10%, parfois c'est 15%, mais c'est quand même assez rare, mais voilà, la majorité est entre 5 et 8%. Et voilà, mais pour la personne qui le mint à la base, il est gratuit, donc il n'y a pas grand chose à perdre quoi. Alors évidemment ça se revend pas très cher, mais voilà, ça coûte rien. Ça coûte le prix de la transaction, et sur Solana c'est insignifiant presque quoi. Donc
Ouais, c'est amusant parce qu'il y a effectivement aussi la capacité de créer le NFT, de le mint avant d'aller l'acheter sur les plateformes comme Solana.
Voilà,
merci
exactement.
Beaucoup Sam, merci beaucoup Quentin.
Et ben, merci
et
à
tu
toi.
Vas sur scène dans quelques minutes et on met dans la description justement le lien de cette retranscription qui sera dans la description de la vidéo. Merci beaucoup les gars,
ben,
à bientôt,
beaucoup.
Salut.
Ouais, avec plaisir et à toutes. Thank you.